Un jour, Marco compte à rebours. Oh là là, vous dites-vous, qu'est-ce que c'est que cette émission Compte à rebours? Quelle est cette échéance, ce décollage? Eh bien, ne vous inquiétez pas, ce sont des contes. Et oui, ils sont un peu à rebours parce qu'on les prend dans tous les sens. Des contes, des histoires, des blagues, des mythes aussi, des légendes. Et en ce moment, on est jusqu'au cou dans les mythes. Les mythes grecs, figurez-vous. Oui, oui, c'est quand même un petit peu, on va dire, le soubassement, les fondements de notre culture, et sans doute plus. Mais avant de commencer, puisque là, ça, on s'y est plongé dedans, hein, la création du monde, on est vraiment au cœur de l'affaire. Avant de commencer, puisqu'il faut quand même pas traîner, je réponds quand même à une question d'une auditrice qui me dit « Vous dites que les mythes grecs sont une subtile description de notre monde intérieur. Je ne vois pas en quoi la castration d'Ouranos me concerne en quelques points de vue, sinon que ça me fait bien rigoler. » Alors, je lui répondrai quand même. C'est vrai, ça paraît loin de nous, mais détrompez-vous, madame. Cosmos et monde intérieur sont au fond un et même. Après la prolifération des origines, il a fallu calmer le jeu. Le ciel n'a pas pu rester sans cesse fécond, sans cesse à donner naissance, sinon rien de stable n'aurait pu s'installer dans l'univers. Il a fallu le tarissement de cette fécondité des origines, la castration d'Ouranos, pour que les planètes tournent et le temps, Chronos, apparaisse. Et oui, et intérieurement, c'est aussi... La castration de Ouranos n'est pas rien. C'est aussi la fin, par exemple, de la fusion avec la mère, puisque là, Ouranos, bien sûr, il est uni à sa femme, mais c'est aussi sa mère. En fait, c'est un peu les débuts de l'individualité, couper le cordon, gagner de l'espace. Voilà, madame, en quoi la castration d'Ouranos vous concerne, mais on va tout de suite continuer avec le générique des mythes grecs. Les mythes grecs. Et voici maintenant la guerre des dieux. Donc, résumé des épisodes précédents. Chronos, le titan, a castré son père, Ouranos, le ciel, qui s'est retiré, ouvrant enfin l'espace entre la terre et le ciel et permettant aux générations de se succéder. Tout en haut du ciel se trouvent les dieux, titans. Ce qu'on appelle les Ouranides, puisque leur père c'est Ouranos, les enfants d'Ouranos, garçons et filles. À leur tête se trouve le cadet, le plus jeune des dieux, qui est un dieu rusé, fourbe, cruel. Du moins c'est ce qu'on dit de lui. Et c'est vrai que, bon, c'est Chronos. C'est lui quand même qui n'a pas hésité à couper les parties sexuelles de son père. C'est vrai qu'en osant cet acte, il a débloqué l'univers, créé l'espace, donné naissance à un monde différent. Mais cet acte comprend aussi un aspect sombre, c'est en même temps une faute dont il faudra payer le prix, car au moment où le ciel s'est retiré à sa place définitive, il n'a pas manqué de lancer contre ses enfants, les titans, les premiers dieux individualisés, une imprécation qui se réalisera et que prendra en charge les Erinies, nées de la mutilation. C'est donc le plus jeune, mais aussi le plus audacieux de ses fils, celui qui a prêté son bras à la ruse de Gaïa pour écarter le ciel et l'éloigner d'elle, c'est Chronos qui sera le roi des dieux du monde. Avec lui, autour de lui, se tiennent les dieux titans, inférieur à lui, mais complice. Chronos les a libérés. Ils sont ses protégés. Nés des embrasements d'Ouranos et de Gaïa, existaient également deux trios de personnages dont je vous ai parlé. D'abord, bloqués, comme leur frère Titan, dans le giron de la Terre, ce sont les trois Cyclopes et les trois Hécatonchires. Que deviennent-ils ? Tout laisse supposer que Chronos, jaloux, méchant, toujours aux aguets, à l'affût, craignant qu'on ne mijote contre lui quelques mauvais coups, eh bien, il s'en préserve, il les enchaîne, il les couvre de liens, les trois Cyclopes, et les trois Hécatonchires aussi, il les relègue dans le monde infernal. Par contre, les Titans, les Titanes, frères et sœurs, vont s'unir. Et en particulier, Chronos a l'une d'entre elles, Rhea. Celle-ci apparaît comme une sorte de double de Gaïa. Rhea et Gaïa sont deux puissances primordiales très proches. Et donc, Chronos s'accouple à Rhea. Si je trouve un jour un récit authentique de l'accouplement d'un titan et d'une titane, je vous le raconterai en détail. Mais pour le moment, je préfère vous laisser imaginer. Chronos s'accouple à Rhea. Les titans sont-ils fertiles ? Sûrement, très fertiles même. Des enfants vont donc venir. Et Chronos le redoute, bien sûr. La malédiction d'Ouranos l'obsède. Tes enfants te feront subir le même sort. Et d'autant plus que sa propre mère, Gaïa, l'a prévenue. Elle est la mère de toutes les divinités primordiales. Elle est dans les secrets du temps. Et elle en saisit ce qui, dissimulé dans l'obscurité de ses replis, vient peu à peu au jour. Un de tes fils, plus fort que toi, te détrônera. Voilà ce que lui a dit sa propre mère. Alors, bien sûr, il réfléchit. Chronos réfléchit. Ouranos contenait ses enfants enfermés dans le ventre de sa femme, Gaïa. Mais elle l'a trahi. Chronos est bien placé pour le savoir, lui qui a reçu des mains de sa mère la harpe et la serpe émasculatrice. Il ne peut faire aucune confiance en Rhea. Et la conclusion est logique pour un titan paranoïaque. Il contiendra ses enfants dans son propre ventre à lui. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Aussi, dès que Rhea a un enfant, il l'avale, il le dévore, il l'engloutit, il le met dans son ventre. Tous les enfants de Chronos et de Rhea sont ainsi engloutis dans la bedaine paternelle. Naturellement, Rhea n'est pas plus satisfaite de cette façon d'agir que Gaïa ne l'était du comportement d'Ouranos empêchant ses enfants de venir à la lumière. En fait, Ouranos et Chronos rejettent en quelque sorte leur progéniture dans la nuit de l'avant-naissance. Ils ne veulent pas qu'elle s'épanouisse à la lumière. Sur le conseil de Gaïa, toujours elle, Rhea décide de parer à la conduite scandaleuse de Chronos. Elle médite une ruse, une tromperie, un mensonge, une fraude. Et ce faisant, elle oppose à Chronos cela même qui le définit, car il est un dieu de ruse, un dieu de mensonge et de duplicité. Quand le dernier des enfants, le plus jeune garçon, Zeus, comme Chronos était d'ailleurs le plus jeune garçon d'Ouranos, lorsque Zeus, le plus jeune garçon, est sur le point de naître, Rhea se rend en Crète, où elle accouche clandestinement. Elle confie le bébé à la garde d'êtres divins, les naïades, qui vont se charger de l'élever à l'intérieur d'une grotte, afin que Chronos ne se doute de rien, qu'il n'entende pas les vagissements du nouveau-né. Puis, les cris de l'enfant grandissant rapidement, Rhea demande à des divinités masculines, les courettes, de rester devant la grotte et de se livrer à des danses guerrières pour que le cliquetis des armes et divers bruits et chants couvrent le son de la voix du jeune Zeus. Par conséquent, Chronos ne se doute de rien. Mais comme il sait bien que Rhea était enceinte, il attend quand même de voir le petit dernier-né dont elle a accouché et qu'elle doit lui présenter. Alors, que lui apporte-t-elle ? Une pierre. Une pierre qu'elle a dissimulée dans des langes d'enfants. Elle dit à Cronos, fais attention, il est fragile, il est petit. Et hop, d'un coup, Cronos avale la pierre emmaillotée. Toute la génération des enfants de Cronos et Rhea est donc dans le ventre de Cronos. Et puis, par-dessus le tout, il y a la pierre. Pendant ce temps-là, Zeus, en Crète, grandit et devient fort. Quand il arrive à pleine maturité, l'idée lui vient de faire expier à Cronos sa faute envers ses propres enfants et aussi envers Ouranos qu'il a dangereusement mutilé. Comment s'y prendre ? Zeus est seul. Il veut que Cronos dégorge, vomisse la ribambelle d'enfants qu'il a dans le ventre. C'est à nouveau grâce à la ruse qu'il y parviendra. La ruse que les Grecs appellent métis, c'est-à-dire cette forme d'intelligence qui sait combiner à l'avance toutes sortes de procédures pour tromper la personne qu'on a en face de soi. La ruse de Zeus consiste à faire prendre à Cronos un pharmacon, un médicament. Présenté comme un sortilège. Mais qui est en réalité un vomitif. C'est Rhea qui le lui offre. À peine Cronos l'a-t-il avalé, qu'il commence par vomir la pierre. Il vomit Hestia, qui vient la première, puis toute la suite des dieux et déesses en sens inverse de leur âge. C'est le plus âgé qui est dans le fond, c'est la plus jeune qui est juste après la pierre. Cronos réitère à sa façon, en les rejetant, la naissance de tous les enfants que Rhea a mis au monde. Voici donc rassemblé un ensemble de dieux et de déesses qui viennent se ranger aux côtés de Zeus. Et commence alors ce que l'on peut appeler la guerre des dieux, c'est-à-dire leur affrontement en un combat longtemps indécis qui se prolonge durant environ 10 grandes années, c'est-à-dire des myriades d'années, puisque la grande année dure 100 ans, voire 1000 ans. D'un côté, autour de Cronos se rassemblent les autres dieux, titans. De l'autre, autour de Zeus, se tiennent ceux qu'on appelle les Cronides ou les Olympiens. Chacun a établi son siège, son camp, en haut d'une montagne. Et ils se battent longuement, sans que la victoire penche clairement d'un côté ou de l'autre. Le théâtre du monde se trouve donc non seulement planté, mais il est maintenant occupé, déchiré par cette guerre interminable entre la première génération de dieux et leurs enfants. Ici encore, la ruse intervient. Il y a plusieurs volets à cette étrange bataille entre puissances divines. Ce qui est certain, c'est que la victoire appartiendra au camp qui n'aura pas seulement avec lui la force brutale, mais aussi l'intelligence subtile. Ce ne sont pas la violence et le surcroît de force qui jouent le rôle déterminant. C'est l'astuce et la ruse. C'est pourquoi un personnage qu'on appelle aussi Titan, bien qu'il appartienne à la deuxième génération, il est le fils du Titan Japé, frère de Cronos, et ce fils s'appelle Prométhée, eh bien, il va passer du côté de Zeus et lui apporter précisément ce qui manque encore au jeune dieu, c'est-à-dire la ruse. Cette métisse, l'esprit intelligent et fourbe, qui permet avant tout de machiner à l'avance les événements pour qu'ils se produisent conformément à ce que l'on souhaite. Gaïa, cette grande mère à la fois sombre et lumineuse, muette et particulièrement loquace, explique à Zeus que pour l'emporter, Elle doit rallier des êtres apparentés aux titans, mais qui ne sont pas dans le camp des titans. Elle veut parler des trois cyclopes et des trois hécatonchires. Car ces dieux titans sont des divinités primordiales qui ont encore toute la brutalité de forces naturelles. Et pour vaincre et soumettre les puissances de désordre, il est nécessaire de s'incorporer la force du désordre. Des êtres purement rationnels, purement ordonnés n'y parviendraient pas. Zeus a besoin dans son camp de personnages qui incarnent les puissances de brutalité violente et de désordre passionné que représentent pour leur part les titans. Aussi, Zeus délie-t-il, libère-t-il les cyclopes et les hécatonchires, qui sont dès lors disposés à lui prêter main forte. Mais le conflit n'est pas pour autant terminé. Pour trouver un nœud des alliés fidèles, il faut non seulement leur rendre la liberté de mouvement après les avoir ramenés de la geôle nocturne obscure où ils étaient cachés par Cronos, mais Zeus doit également leur donner l'assurance que s'ils combattent à ses côtés, ils auront droit au nectar et à l'ambroisie, c'est-à-dire à la nourriture d'immortalité. Finalement, au bout de 10 grandes années d'un combat incertain, les plateaux de la balance vont pencher du côté de ce que l'on appelle les Olympiens, parce qu'ils combattent depuis le sommet de l'Olympe. Qui sont les Cyclopes? Comment apportent-ils la victoire à Zeus? En lui offrant une arme irrésistible? La foudre. C'est Gaïa, toujours présente, qui leur donne les moyens de la fabriquer, tout comme elle avait tiré de son sein ce blanc métal acier de la serpe qui avait armé la main de Cronos. Ici encore, c'est elle qui fournit le matériau. Les cyclopes, avec leur unique, comme des forgerons, des héphaïstos avant la lettre, détiennent cette foudre qu'ils vont mettre à la disposition de Zeus pour qu'ils s'en servent à tout moment. Dans la main de Zeus, elle est un condensé de lumière et de feu incroyablement puissant et actif. Les hécatonchires, eux, ont 100 mains. Ils sont la poigne, la force brute. Avec ces deux atouts, l'œil des cyclopes qui foudroie et la puissance du bras qui domine, Zeus devient vraiment invincible. Il y a alors un point culminant dans cette bataille, dans ce sommet du combat entre les puissances divines, où Zeus lance sa foudre et les hécatonchires se précipitent sur les titans, alors le monde retourne à un état chaotique. Les montagnes s'écroulent. Des crevasses s'ouvrent. Et du fond du Tartare, là où règne la nuit, on voit tout d'un coup monter des profondeurs, la brume. Le ciel s'écroule sur la terre. On revient à l'état de chaos, à l'état primordial de désordre originel. Quand rien n'avait encore de forme. La victoire de Zeus n'est pas seulement une façon de vaincre son adversaire et père Cronos. C'est aussi une manière de recréer le monde, de refaire un monde ordonné à partir d'un chaos, à partir d'une béance où rien n'est visible, où tout est désordre. Force de l'œil, force du bras, l'adversaire tombe, dompté. Au moment de cette sinistre apothéose de la puissance de Zeus, qui implique comme étape nécessaire un retour provisoire au chaos, les titans sont précipités au sol. Zeus les fait chuter sous les coups de fouet de sa foudre et sous la poigne des hécatonchires. Ils tombent à terre. Les 100 bras précipitent sur eux une montagne d'énormes pierres sous lesquelles les titans ne peuvent plus bouger. Ces dieux, dont la puissance se manifestait par la mobilité, par la présence continue, sont réduits à rien, immobilisés et contraints sous une masse dont ils ne peuvent s'extraire. Leur force ne peut plus s'exercer. Les 100 bras, Kotos, Briare, Giès, s'emparent d'eux et les amènent dans le monde souterrain. Les titans ne peuvent pas être tués puisqu'ils sont immortels, mais ils sont renvoyés au chaos souterrain, dans le Tartare brumeux, où rien n'est distinct, où il n'y a pas de direction, béance ouverte dans le fond de la terre. Pour qu'il ne puisse pas remonter à la surface, Poséidon est chargé de construire un rempart autour de cette espèce de col qui, au plus profond du sol, forme le passage étroit, débouchant dans le monde souterrain et ombreux du Tartare. Par ce col, comme par le goulot d'une jarre, s'enfoncent toutes les racines que la terre implante dans les ténèbres pour assurer sa stabilité. C'est là que Poséidon élève un triple mur d'airain et qu'il institue les 100 bras, gardiens fidèles de Zeus. En bloquant cette ouverture, toutes les précautions sont prises pour que cette génération de titans ne puisse plus jamais ressurgir à la lumière. Ouf, les dieux ont gagné, les titans sont enfermés. On va pouvoir se détendre. C'était Compte à rebours avec les mythes grecs. Vous inquiétez pas, il y aura encore des aventures, encore des bagarres. On n'a pas fini. Mais pour l'instant, Compte à rebours, c'est fini. Je vous dis à la semaine prochaine. C'était Marco. Ciao. Thank you.